Je vous inviterai ce matin à une lecture un peu longue dans le livre des Actes, au chapitre 25, verset 13 jusqu'au chapitre 26, verset 8, et puis verset 19 à 32 dans le chapitre 26. Dans les Bibles bleues, vous trouverez ce texte, page 1260. Page 1260 dans les Bibles bleues. Actes 25, verset 13. Le roi Agrippa et Bérénice arrivèrent à Césarée pour saluer Festus. Comme ils passaient plusieurs jours, Festus exposa au roi le cas de Paul et dit « Félix a laissé prisonnier un homme contre qui, lorsque j'étais à Jérusalem, les principaux sacrificateurs et les anciens des Juifs ont porté plainte pour demander sa condamnation. Je leur ai répondu que les Romains n'ont pas coutume de livrer à la mort un homme avant que l'accusé soit confronté avec ses accusateurs et qu'il ait l'occasion de se défendre contre cette accusation. Ils sont alors venus ici et sans aucun délai, je siégeai le lendemain à mon tribunal et donnai l'ordre d'amener cet homme. Ces accusateurs s'étant présentés n'ont mis à sa charge aucune des mauvaises actions dont je le soupçonnais. Ils avaient avec lui des discussions relatives à leur religion particulière et à un certain Jésus qui est mort et que Paul affirme être vivant. Quant à moi, perplexe à propos d'un débat de cette sorte, je lui ai demandé s'il voulait aller à Jérusalem pour être jugé là-dessus. Mais Paul a fait appel pour que sa cause soit réservée à la compétence de l'empereur, et j'ai donné l'ordre de le garder jusqu'à ce que je l'envoie à César. Agrippa dit à Festus, « Je voudrais moi aussi entendre cet homme. »« Demain, répondit-il, tu l'entendras. » Le lendemain donc, Agrippa et Bérénice vinrent avec beaucoup d'apparat et entrèrent dans la salle d'audience avec les tribuns et les gens haut placés de la ville. Sur l'ordre de Festus, Paul fut amené. Alors Festus dit, « Roi Agrippa, et vous tous présents avec nous, vous voyez cet homme au sujet de qui toute la multitude des Juifs est intervenue auprès de moi, soit à Jérusalem, soit ici, en clamant qu'il ne devait plus vivre. » Pour moi, j'ai compris qu'il n'avait rien commis, qui soit digne de mort, mais lui-même, en ayant appelé à l'empereur, j'ai jugé bon de le lui envoyer. Je n'ai rien de précis à écrire au souverain, sur son compte. C'est pourquoi je l'ai fait comparer devant vous, et surtout devant toi, roi Agrippa, afin d'avoir, après l'interrogatoire, quelque chose à écrire, car il me semble absurde d'envoyer un prisonnier sans indiquer les motifs qu'il y a contre lui. Agrippa dit à Paul, « Il t'est permis de parler pour ta cause. » Alors Paul étendit la main et présenta sa défense. « Je m'estime heureux, roi Agrippa, d'avoir aujourd'hui à présenter ma défense devant toi au sujet de toutes les accusations des Juifs contre moi. Car tu connais parfaitement toutes les coutumes des Juifs et leurs discussions. Je te prie donc de m'écouter patiemment. Ma vie dès ma jeunesse et depuis le commencement s'est passée à Jérusalem, au milieu de ma nation. Tous les Juifs le savent. Ils me connaissent depuis longtemps s'ils veulent en témoigner. J'ai vécu en pharisien, selon le parti le plus rigide de notre religion. Et maintenant, je suis mis en jugement à cause de l'espérance en la promesse faite par Dieu à nos pères et dont nos 12 tribus qui rendent un culte à Dieu sans relâche, nuit et jour, espèrent atteindre l'accomplissement. C'est pour cette espérance, ô roi, que je suis accusé par les Juifs. Quoi ? Jugez-vous incroyable que Dieu ressuscite les morts ? Et puis, après que Paul ait raconté le récit de sa conversion, au verset 19 du même chapitre, nous lisons cela. « En conséquence, roi Agrippa, je n'ai pas désobéi à la vision céleste, mais à ceux de Damas d'abord, puis de Jérusalem, dans tout le pays de Juda, puis aux païens, j'ai annoncé la repentance et la conversion à Dieu, avec la pratique d'œuvres dignes de la repentance. Voilà pourquoi les Juifs se sont emparés de moi dans le temple et ont tenté de me faire périr. Mais grâce à la protection de Dieu, j'ai subsisté jusqu'à ce jour, et je rends témoignage devant les petits et les grands. » Sans rien dire en dehors de ce que les prophètes et Moïse ont déclaré devoir arriver, c'est-à-dire que le Christ souffrirait et que ressuscitait le premier d'entre les morts, il annoncerait la lumière au peuple et aux païens. Comme il se défendait ainsi, Festus dit à haute voix, « Tu es fou, Paul, ta grande érudition te pousse à la folie. » « Je ne suis pas fou, très excellent Festus, répliqua Paul. Ce sont au contraire des paroles de vérité et de bon sens que j'exprime. » Le roi est instruit de ces faits. Je lui en parle ouvertement, car je suis persuadé qu'il n'en ignore rien, puisque ce n'est pas en cachette que cela s'est passé. Crois-tu au prophète, roi Agrippa ? Je sais que tu y crois. Et Agrippa dit à Paul, encore un peu, Tu vas me persuader de devenir chrétien ?» Paul répondit, « Que ce soit pour un peu ou pour beaucoup, plaise à Dieu que non seulement toi, mais encore tous ceux qui m'écoutent aujourd'hui, vous deveniez tel que je suis, moi, à l'exception de ces chaînes. » Le roi, le gouverneur, Bérénice et ceux qui siégeaient avec eux se levèrent, et en se retirant, ils se disaient les uns aux autres, « Cet homme ne fait rien qui mérite la mort ou les chaînes. » Et Agrippa dit à Festus, « Cet homme aurait pu être relâché s'il n'en avait appelé à César. » Jusque-là, la lecture de la parole de Dieu. Festus, Agrippa, Paul, trois personnages très différents, trois vies très différentes, trois destins très différents, et une rencontre. Une rencontre occasionnée par cette affirmation de l'un d'entre eux, Paul, qu'un certain Jésus, qui était mort, est vivant. Et face à cette affirmation de la résurrection de Jésus, trois conduites différentes. Et c'est à une réflexion sur les réactions de l'homme face à la résurrection de Jésus que j'aimerais consacrer la méditation de ce matin au travers des réactions des trois personnages que nous présente ce texte du livre des Actes. Situerons d'abord rapidement les personnages en question, puis nous étudierons leur comportement lors de l'épisode que nous avons lu, et enfin nous examinerons leurs trois réactions différentes vis-à-vis de la résurrection de Christ. Et nous essaierons bien sûr au cours de cette réflexion d'en tirer des enseignements pour nous-mêmes. Premier point rapide, présentation des personnages. Festus, il est le successeur de Félix comme procurateur de Judée. Il est nommé à ce poste vers 55 ou 56, sous le règne de l'empereur Néron. Il mourut vers l'an 62. Il fut, semble-t-il, quelqu'un d'assez débonnaire, différent de celui qui l'avait précédé, Félix, tyran cruel et débauché. Agrippa, son vrai nom est Hérode Agrippa II, fils d'Hérode Agrippa I, arrière-petit-fils d'Hérode le Grand, roi lors de la naissance de Jésus-Christ. Agrippa a été élevé à Rome, puis il reçut le petit royaume de Chalcis, d'où son titre de roi, près du Liban, et devint aussi tétrarque de Philippe. Agrippa fut un homme averti des questions religieuses et connu pour cela, mais sa conduite prêta parfois à scandale, semble-t-il, en particulier dans des relations douteuses avec Bérénice, sa sœur. L'apôtre Paul, nous ne dirons pas grand-chose sur l'apôtre Paul que vous ne connaissiez, mais il approche ici de la période terminale de son ministère et de sa vie. Ses plans ont été apparemment anéantis, mais il garde vivante et ferme son espérance en Jésus-Christ. Et nous l'avons lu, il n'hésite pas à rendre témoignage de ce qu'il a vu et de ce qu'il croit. Deuxième point, les comportements de ces hommes dans l'épisode rapporté. Comportement de Festus, le procurateur. Festus, dans ce récit, nous apparaît essentiellement comme très indécis. Il se dit lui-même perplexe, assure n'avoir rien à écrire sur le compte de Paul. Dans son indécision, il a cependant deux désirs. Son premier désir est de se débarrasser, si possible, de ce problème gênant que constitue Paul. Et il cherche des solutions, tout en changeant ses projets en fonction des divers interlocuteurs qu'il rencontre. Soit Paul, soit les Juifs, soit Agrippa. Son second désir est de ne mécontenter personne dans la mesure du possible. Il veut être bien avec les Juifs. Il les a accueillis, il les a écoutés. Il a accédé un minimum à leurs demandes en gardant Paul en prison. Il veut être bien avec Paul, il l'écoute, il le traite plutôt bien. Il veut être bien avec le roi Agrippa, qu'il va valoriser. Et il n'oublie certainement pas non plus le risque de mécontenter l'empereur et la loi romaine, d'où une attitude prudente. Mais ce désir de Festus de ne mécontenter personne révèle surtout son manque de courage et de fermeté. Et son attitude n'est pas sans nous rappeler quelque peu celle de Pilate. Et puis la naïveté de Festus le rend, il faut le dire, assez ridicule. Il est celui qui possède le pouvoir, mais il se montre incapable de décider par lui-même. Il est absurde, décrit-il, et effectivement, d'envoyer à César un prisonnier sans indiquer le motif. Oui, cela nous semble assez évident. Il est absurde d'envoyer un prisonnier sans indiquer le motif pour lequel il est prisonnier et pour lequel je vais l'envoyer. Peut-on tirer quelques enseignements de ce comportement de Festus ? En nous considérant nous-mêmes, nous ne sommes pas procurateurs de Judée, nous ne sommes pas Festus, mais n'avons-nous pas tendance, parfois, à vouloir faire plaisir à tout le monde ? À vouloir satisfaire Dieu, bien sûr, et en premier lieu, mais aussi parfois le monde et les hommes, nos voisins, nos collègues, notre famille. Alors certes, l'esprit de conciliation est une bonne chose, mais peut-être peut-on être conciliant avec le mal ? Peut-on renvoyer dos à dos la vérité et le mensonge ? Peut-on s'abriter derrière autrui pour nous-mêmes agir d'une manière qui serait condamnable si nous y prêtions vraiment attention? Nous ne devons pas nous abriter derrière la conscience d'autrui, par exemple, et une neutralité comme celle qu'affiche Festus à propos de cette question religieuse n'est en fait qu'une fausse neutralité. Et nous devons être conscients que dans la vie chrétienne, dans notre vie, parfois, il nous arrive d'adopter une neutralité, une passivité face à certains problèmes qui n'est pas ce à quoi Dieu nous appelle. Agrippa, le comportement du roi Agrippa. Agrippa apparaît effectivement par son attitude même, j'aimerais entendre cet homme, et dans ce que peuvent dire de lui Festus et Paul, comme quelqu'un de bien informé sur les questions religieuses et d'intéressé même par les problèmes théologiques. Et Agrippa se montre assez bien disposé à l'égard de Paul. Il reconnaît, en dernier lieu, l'innocence de ce dernier. Il semble qu'il ait entendu parler de ces choses, parler de Jésus, parler peut-être même de la résurrection. Il dit très peu de choses dans notre passage, mais ce qu'il dit semble indiquer donc une certaine connaissance, mais nous reviendrons à cela dans un instant. Quels enseignements pouvons-nous tirer de ce comportement d'Agrippa ? Beaucoup de gens sont comme Agrippa, intéressés par la religion, spécialistes même parfois de questions théologiques. Beaucoup d'hommes et de femmes ont soif d'entendre parler des choses religieuses. C'est une bonne chose. Avons-nous ce même désir ? Aimons-nous lire, écouter des discours sur la religion ? Sur Dieu, des discours chrétiens? Et si nous avons ce goût excellent, en restons-nous là, comme Agrippa, ou allons-nous plus loin? Il nous faut aller plus loin. Le comportement de l'apôtre Paul. Paul se présente comme un témoin de ce que Dieu a réalisé dans sa vie, témoin de ce qu'il a vu, de ce qu'il a entendu. Il rappelle sa conversion, après avoir rappelé sa vie antérieure. Mais l'on doit noter, bien sûr, que dans sa vie, il n'en est pas resté là, ni dans ses paroles, ni dans ses actes. Il a vécu réellement sa conversion. Il a vécu en disciple de Christ. Alors Paul sait se mettre au niveau de ses interlocuteurs. Et face à Agrippa, il montre en Christ celui qui accomplit les prophéties dont Agrippa connaît l'enseignement. Il peut ainsi conduire Agrippa, par la logique de son raisonnement, à une presque conviction. Mais Paul est bien conscient que sa mission n'est pas de convertir, dans le sens de convaincre par ses propres moyens humains de raisonnement. Dieu seul peut convertir. C'est la signification de ce qu'il dit à la fin de son discours. Plaise à Dieu que toi et tous ceux qui sont là et qui m'écoutent puissiez en effet être comme moi, c'est-à-dire avoir cette même foi au-delà donc d'un simple intérêt. Quels enseignements pouvons-nous tirer de l'exemple du comportement de Paul ? Savons-nous nous mettre au niveau de ceux à qui nous nous adressons, de ceux auxquels nous cherchons à annoncer l'Évangile ? Ou pensons-nous parfois que Après tout, les autres peuvent bien faire l'effort de nous comprendre, sans donc réfléchir à ce que nous disons, ou tout au moins à la manière dont nous le disons. Paul semble échouer dans l'histoire qui nous arrête ce matin. Aucun de ses auditeurs ne semble se convertir, ni Festus, ni Agrippa, ni Bérénice, ni d'autres. Et Paul reste emprisonné, et d'une certaine façon, cela nous déçoit peut-être. Ça aurait été bien qu'il y ait une APN, que Paul soit libéré après cela. Et à l'inverse, il va être conduit à Rome, exposé encore à des dangers sur le chemin, et puis à Rome, pour y vivre en définitive, et après un temps, jusqu'à sa mort. Pourtant, cet échec de Paul, Dieu va l'utiliser pour son œuvre. Paul va donc à Rome, il sera utile à l'avancement du règne de Dieu. Échec de Paul, non. Fidélité et obéissance. Fidélité et obéissance qui nous sont aussi demandées à nous, chrétiens. Le combat, il est quant à lui dans les mains de Dieu. Notre part est de nous engager toujours plus fidèlement au service de notre Dieu, comme l'apôtre Paul l'a fait. Nous ne sommes pas, bien sûr, l'apôtre, mais il nous est demandé d'agir de la même manière, de nous comporter pareillement dans la fidélité, dans l'engagement, dans la confiance à Dieu. Troisième point dans notre réflexion, les positions adoptées, les attitudes présentées ici vis-à-vis de la résurrection par ces hommes et notre propre position à cet égard. Attitude de Festus. Festus a exprimé le fond même du problème dans cette phrase que nous avons lue, ce Jésus qui est mort et dont Paul dit qu'il est vivant. Ce Jésus qui est mort et dont Paul dit qu'il est vivant. Festus verbalise bien ce qui est en jeu ici, et pourtant il ne comprend pas véritablement de quoi il s'agit. Il pense qu'il s'agit ici de questions entre spécialistes religieux. Et puis, ayant écouté Paul et l'ayant entendu s'expliquer, la seule conclusion à laquelle il aboutit, c'est la folie supposée de Paul. « Tu es fou, Paul ! Paul, tu es fou, ton grand savoir te mène à des folies. Tu es fou. » Festus ne cherche pas au-delà. Il a trouvé une explication qui lui suffit dans la supposée folie de l'apôtre. Certainement, Festus croit dans sa propre sagesse et sans doute est-il convaincu de trouver, lui, la solution là au problème. Paul est fou. Mais la sagesse de Festus ne peut que s'opposer à celle de Paul. Folie qui est en fait la folie même de l'Évangile. Et il est frappant, et nous pouvons nous souvenir de ce que Paul lui-même écrit dans sa lettre aux Corinthiens, un texte que nous avons étudié récemment dans les ateliers bibliques le jeudi soir, dans 1 Corinthiens, au chapitre 1, Paul écrit ceci, parole que nous connaissons bien, « Car la parole de la croix est folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est puissance de Dieu. Aussi est-il écrit, « Je détruirai la sagesse des sages et j'anéantirai l'intelligence des intelligents. » Où est le sage? Où est le scribe? Où est le contestataire de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas frappé de folie la sagesse du monde? Car puisque le monde, avec sa sagesse, n'a pas connu Dieu dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse. Nous nous prêchons Christ crucifié. Scandale pour les Juifs et folie pour les païens, mais pour ceux qui sont appelés, tant Juifs que Grecs, Christ, puissance de Dieu et sagesse de Dieu. Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Et dans la même épître, au chapitre 11, ce qu'il écrit, versets 3 et 4, « Je veux que vous le sachiez, Christ est le chef. » Excusez-moi, chapitre 15. « Je vous ai transmis avant tout ce que j'avais aussi reçu. Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures. Il a été enseveli, il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures. » Première attitude face à la résurrection. C'est donc celle d'homme qui, comme Festus, ne rejette pas forcément la valeur morale de l'Évangile, de l'enseignement de Christ, mais refusent de croire en la réalité de la résurrection. Nombreux sont ceux qui disent aimer la morale de Jésus, la morale du sermon sur la montagne, par exemple, qui peuvent admirer, voire essayer de vivre selon ce que Jésus dit, mais ne croient pas en un Christ ressuscité. C'est le cas, par exemple, de Léon Tolstoï, religieux, sérieux, convaincu, réfléchissant, pour arriver à cela. Oui, l'Évangile sans les miracles, l'Évangile sans la résurrection de Christ. Croire en la résurrection ne peut paraître que de la folie, ou de l'immaturité, ou de l'imagination. Notre réponse, votre réponse à l'affirmation de la résurrection de Christ est-elle de dire avec Festus, cela est fou? Vous, chrétiens, êtes fous. Vous êtes fous si vous croyez réellement cela. Oui, il y a là de la folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est puissance de Dieu. Elle est puissance de Dieu. Croyons-nous qu'il s'agit là de folie? Attitude d'Agrippa. La réaction d'Agrippa à la question personnelle que lui pose Paul, « Crois-tu au prophète ?» Cette réaction est assez ambiguë. « Encore un peu et tu vas me persuader de devenir chrétien. » Agrippa est conscient de ce que le discours de Paul est logique, que l'enseignement des prophètes annonce effectivement ce que Christ a accompli et ce dont lui, Agrippa, a pu entendre parler. Il ne semble pas qu'Agrippa vive ici un travail véritable, intérieur de conversion ou pré-conversion. Mais cette phrase traduit en tous les cas son embarras, dont il ne se sort que par une remarque en apparence quelque peu ironique, voire cynique. « Tu vas bientôt me persuader de devenir chrétien ?» Au total, donc, Agrippa se présente comme un homme intéressé par les choses religieuses, par la théologie, mais qui refuse la vérité. Pourquoi refuse-t-il cela? Qu'il approche pourtant, nous pouvons le dire. Peut-être entre autres parce que Paul annonce certes le salut par grâce, l'œuvre rédemptrice de Christ, mais qu'il prêche aussi la repentance et la pratique d'œuvres bonnes. Et cela peut-être était trop difficile pour Agrippa. La deuxième attitude face à la résurrection est donc celle qui consiste non pas dans une incrédulité au sujet de la résurrection elle-même, mais réside en un refus de l'accepter comme une vérité personnelle. Quelle est la raison de ce refus? Le résultat reste le même. Peu importe que l'on croit en la résurrection, si l'on en reste à une adhésion purement et simplement intellectuelle, même religieuse, mais sans conviction personnelle, sans que cela devienne quelque chose que l'on vive. Beaucoup d'hommes et de femmes restent à cette frontière de la foi et ne se décident pas à entrer. Leur réponse, en définitive, c'est leur absence de réponse décisive. Nombreux sont ceux que l'on pourrait appeler, comme John Wesley le fait dans l'un de ses sermons, des presque chrétiens, almost Christian, presque chrétiens. Mais être un presque chrétien, ce n'est pas ce à quoi nous sommes appelés. Avez-vous dépassé ce stade? Notre époque matérialiste et athée dans la pratique est aussi une époque où, pour certains, il n'est pas mal vu d'être religieux, de s'intéresser à ces choses, de proclamer, oui, que la religion a de la valeur. Mais avons-nous une foi personnelle en Jésus Sauveur, en Jésus mort pour nos péchés, en Jésus ressuscité? Sommes-nous vraiment pleinement chrétiens? Non des presque chrétiens, mais des chrétiens sauvés par l'attitude, par l'œuvre de salut de Christ. Enfin, l'attitude de Paul face à la résurrection. Paul, bien sûr, croit dans la résurrection. Il a rencontré Jésus, celui qu'il persécutait. Sa foi n'est pas une croyance intellectuelle, même si le raisonnement et l'enseignement de Paul peut être intellectuel. Mais c'est une foi personnelle, en Christ mort et ressuscité. Et Paul, nous le savons, insiste fortement sur la réalité matérielle, concrète, de la résurrection. Et puis Paul a une vie en accord avec sa foi. Prenons en quelque sorte les aspects positifs dans l'attitude de Festus et d'Agrippa face à la résurrection. Poser le problème, s'approcher d'eux. Paul regroupe cela et ajoute une marche en avant avec Christ. Cette attitude, c'est celle, bien sûr, cette attitude face à la résurrection, c'est bien sûr celle de la conversion à Christ. La conversion qui consiste en le fait de reconnaître notre réalité de pécheur, puis dans celui de donner notre vie à Dieu pour qu'il la transforme. C'est donc ce renoncement à nous-mêmes que nous pouvons enfin connaître Jésus. Oui, c'est ainsi que nous pouvons connaître Jésus vivant aujourd'hui. La conséquence de cette attitude face à la résurrection de Christ, elle n'est pas une attitude figée. Elle est au contraire une attitude dynamique. C'est en effet à une marche en avant avec Christ que nous sommes appelés. La conversion n'est pas une fin. Elle est le début d'une vie chrétienne active. Parfois, trop souvent, nous chrétiens convertis oublions de marcher, de progresser sur le chemin où Christ nous précède. Trop souvent, notre vie chrétienne est comme un feu rouge. Nous attendons avant de démarrer, d'aller de l'avant. Mais nous sommes appelés à progresser, nous sommes appelés à marcher, à vivre dans l'aujourd'hui. Une attitude de témoin actif, de cet événement, élément unique, essentiel et merveilleux, la résurrection de Jésus-Christ. Nous conclurons. Festus, Agrippa, Paul, trois hommes très différents, trois façons différentes de se définir par rapport à la résurrection de Christ. Pouvons-nous, nous qui sommes réunis dans cette salle, en ce moment unique de notre vie à tous. Pouvons-nous nous situer face à ce propos de Festus, le procurateur, un certain Jésus qui est mort et que Paul dit être vivant. Nous avons chanté la résurrection de Christ. Nous l'avons dit plusieurs fois en début de ce culte et redit. Mais c'est Festus qui a su voir le fond de la question, qui cependant d'abord n'a pas compris, puis ayant compris n'a pu accepter ce qui lui est apparu impossible, et a cru trouver une solution rassurante dans la folie de Paul. Tu es fou, Paul. Notre expérience, notre réassurance est-elle dans la folie de Paul ? Dans la folie de tous les témoins de Jésus-Christ ? Dans la folie de Paul, de Matthieu, dans la folie de vous tous qui êtes chrétiens ? Est-ce que c'est là ce qui peut nous rassurer ? Est-ce à Agrippa que nous ressemblons ? Lui comprend réellement ce qui est en cause, et il n'est pas loin, peut-être, d'être convaincu. Mais il refuse d'aller plus loin, peut-être par refus d'abandonner ce à quoi il tenait, d'abandonner sa vie à Christ, certainement. Quelle que soit la raison, sommes-nous, comme Agrippa, des presque chrétiens ? Ne nous y trompons pas. Il ne sert à rien d'être un presque chrétien, car on ne peut être presque sauvé. On est sauvé ou pas. On ne peut pas être presque sauvé. Et ça, Paul, que nous ressemblons, avons-nous pensé que ce Paul, ce prisonnier dans les liens, il est à ce moment-là le seul homme libre parmi tous ces gens. Il est libre du péché, Christ a pris son péché. Il est libre de la crainte des hommes. Il est libre de la peur des événements. Il est libre de la peur de la mort. Libre de tout cela, parce qu'affranchi totalement et complètement par Jésus-Christ. Jésus est ressuscité et vivant aujourd'hui. Avons-nous cette liberté en Christ ? L'avez-vous ? Plaise à Dieu que tous, un jour, nous soyons tels que Paul l'a été, des rachetés de Jésus-Christ. Jésus-Christ mort pour nos péchés, ressuscité pour notre justification. Des témoins de son amour, des hommes et des femmes à son service, appelés à le glorifier par nos paroles et nos vies. Plaise à Dieu. Plaise à Dieu qu'il en soit ainsi pour chacun de nous. C'est possible dans la grâce de Dieu. Amen.